Hervé Barreau, on continue ce Radio Barque dont vous êtes l'invité aujourd'hui avec votre présidence depuis un an, je crois que c'est à peu près presque un anniversaire. Du alors PNR Corbière-Fenouillade, alors c'est le parc naturel régional. On va peut-être rappeler quand même succinctement, Hervé Barreau, ce qu'est un parc naturel régional pour bien faire le distinguo avec les parcs naturels nationaux.
La différence, elle est effectivement de taille. Le parc national, ce qu'on appelle un parc national, c'est une zone de protection.
C'est de la conservation pure.
C'est de la conservation pure. C'est une décision de l'État, en général, hein, qui décide de mettre sous cloche une partie du territoire qui est généralement un territoire inhabité ou en tout cas très, très faiblement habité. Et donc, on préserve le parc des Pyrénées pour les animaux qui s'y trouvent, à la fois des animaux terrestres, des animaux plus aériens, hein, comme les rapaces. Et il y a des règles qui sont des règles extrêmement contraignantes. On ne peut pas ramasser des champignons, on ne peut pas couper un arbre, on peut pas. Enfin, il y a des règles qui sont des règles très fortes, mais qui sont là pour préserver préserver l'espace. Le parc naturel régional, c'est un projet de territoire. C'est un projet de territoire dont un des objectifs est de préserver la biodiversité. Mais dans un projet de territoire de parc naturel régional, l'être humain est au centre de la démarche. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un territoire qui est mis sous cloche, mais on est sur un territoire qui adopte un projet de conservation, certes, mais qui adopte un projet de développement qu'on va qualifier de durable, le développement. Et donc, c'est ce qui se passe pour le territoire des Corbières-Fenouillade.
Oui, alors il faut arriver à concilier, dans ce cas-là, activité économique et développement, avec quand même protection, notamment de la biodiversité.
Protection de la biodiversité, protection des ressources aussi.
Hein. Oui, des ressources.
On est sur...
Il y a déjà dans l'Aude un parc naturel régional, celui de la Narbonnaise en Méditerranée, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est sur la partie littorale, on va dire, pour faire simple. Comment est venue l'idée de dire ben, il faudrait aussi faire un PNR, mais dans un territoire qui est quand même assez différent?
Alors en fait, il existe deux parcs, celui de la Narbonnaise, enfin il existait, pardon, deux parcs, celui de la Narbonnaise et celui des Pyrénées catalanes. Le troisième, celui que j'ai l'honneur de présider, se situe en continuité avec et la Narbonnaise et les Pyrénées catalanes. Ben, l'idée est venue de... Il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée est venue d'élus de la communauté de communes de Agly-Fenouillade, hein, c'est-à-dire Maury Codiez de Fenouillade, qui imaginait candidater à la création d'un parc naturel régional. Comme... l'espace des Fenouillades, du Fenouillade, est un peu restreint. Ils sont venus nous rencontrer. Moi, j'étais à l'époque, parce que ça remonte, hein, le début de nos discussions, j'étais à l'époque président de la communauté de communes de Moutoumet, petite communauté de communes. Et donc, nous avons commencé à travailler ensemble et nous avons porté cette idée de projet. C'est vraiment aussi une différence majeure avec le parc national. Le parc national est une démarche de l'État, une démarche descendante. Là, nous sommes sur une démarche ascendante. Ce sont des élus qui se sont réunis, qui ont porté ce projet, qui ont sollicité la région... Qui est maître d'œuvre, maître d'ouvrage dans cette affaire-là, maître d'œuvre, pardon, dans cette affaire-là, et qui, sur un espace qui n'était pas forcément défini à la commune près, mais comprenant et les Corbières et le Fenouillade, a souhaité s'engager dans une démarche de création d'un parc.
Et là, on est à cheval sur deux départements. Alors, le Fenouillade, un petit point d'histoire également, il a été rattaché, lorsque les départements ont été faits, aux Pyrénées-Orientales, à la partie catalane, mais c'est une partie de langue occitane, historiquement.
Tout à fait, c'est une partie de langue occitane. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ce parc, qui, en dehors de quelques communes qui sont en Catalogne, hein, de langue maternelle
catalane,
il y a 6 communes. Hein. Toutes les autres sont des communes de langue occitane, et notamment, bien sûr, le Fenouillade, qui, comme vous le dites, a été récemment rattaché aux Pyrénées-Orientales.
Oui, récemment, c'est relatif. Quelques siècles quand même. Et alors, une fois qu'on a souhaité faire un parc naturel régional, l'interlocuteur, c'est la région, ok, mais qu'est-ce qu'on va lui mettre sur la table? C'est-à-dire, quelles sont les conditions? Et ça peut pas tomber du ciel comme ça.
En fait, la région a compétence en matière de parcs naturels régionaux, mais c'est l'État et c'est le ministère de l'écologie qui va délivrer le label ou pas.
Oui, voilà. Donc il va falloir quand même remonter au niveau de l'État pour obtenir ce label.
Auprès du Comité national de la protection de la nature, pour obtenir ce label, la démarche est très longue, il faut compter une dizaine d'années. Et elle est très longue et elle est très normée.
C'est, voilà, oui, alors justement, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table ?
Ben, il faut mettre sur la table à la fois les caractéristiques du territoire, en termes notamment de biodiversité, mais pas que, en termes de production d'énergie ou de réduction des consommations énergétiques ou de transformation d'énergie polluante en énergie renouvelable. Bref, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre sur la table pour arriver à la rédaction de ce qu'on appelle une charte. Et cette charte, elle écrit les engagements de l'ensemble des partenaires à transformer, modifier, améliorer tel ou tel dispositif. Mmh. C'est ça le sujet. C'est vrai que les parcs ont été créés pour sauvegarder la biodiversité, ou en tout cas sauver la biodiversité, faire en sorte que des démarches conduisent au maintien de cette biodiversité. C'est vrai que c'est un élément important, mais ça n'est pas que cela.
Voilà. Et donc, dans cette charte, les volontés de développement et le type de ce développement souhaité figurent clairement.
Le type de développement souhaité figure clairement. C'est-à-dire en agriculture, par exemple, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'eau, c'est comment on utilise l'eau, quelle eau on utilise, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eau pour développer l'agriculture en termes de petite industrie, puisqu'on est sur des territoires en général ruraux, donc on n'est pas sur des zones extrêmement industrialisées. En termes de tourisme, ça fait partie des éléments extrêmement importants. Quel tourisme ? Est-ce qu'on fait en sorte que le tourisme soit à impact négatif ou positif? Est-ce que, en termes d'énergie, comment on fait pour réduire la consommation d'énergie fossile? En termes de mobilité, quelles sont les solutions que l'on préconise pour rendre les mobilités moins polluantes?
À partir du moment où vous obtenez le label, donc par le ministère de l'écologie, là vous êtes au pied du mur et c'est là où ça commence, on prend le taureau par les cornes. Alors quelles ont été vos premières grandes décisions, si je puis dire?
Alors le parc c'est assez éclectique. Hein. Je veux dire par là qu'on n'est pas forcément cantonné uniquement sur l'écologie, puisque les premières grandes décisions qu'on a prises, c'est... et nous y sommes dessus, nous sommes engagés dans cette voie, c'est la création d'un schéma culturel, parce que, vous l'avez dit, le territoire du parc, c'est une centaine de communes, 99 exactement, à cheval dans l'Aude, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc ce que l'on veut, c'est créer une forme d'unité qui a été compromise, cette unité, par l'existence de deux départements, aux cultures d'ailleurs très différentes. Donc schéma culturel, c'est à la fois faire le point sur ce qui existe en termes d'initiatives culturelles et se fixer un certain nombre d'objectifs en matière d'accès des citoyens de notre territoire à la culture. Mais le dernier exemple dont vous parliez tout à l'heure, c'est la question du développement du photovoltaïque, c'est-à-dire d'une énergie renouvelable. Et là, on s'est engagé dans une opération qui s'appelle du soleil sur les toits, c'est-à-dire le développement de panneaux photovoltaïques sur les toits pour les stades de bâtiments publics. On a engagé cette démarche avec 45 communes, c'est-à-dire à peu près la moitié des communes du parc, qui se situent sur l'ensemble du territoire Aude-Pyrénées-Orientales et qui devraient permettre de mettre le pied à l'étrier et donc de travailler à la production d'énergie renouvelable sur le territoire et des énergies renouvelables qui seront consommées pour la plupart d'entre elles sur place.
Oui, par le photovoltaïque.
Et par le photovoltaïque.
Ah, ouais, parce qu'il y a l'éolien, on le sait, bon, qui est là depuis beaucoup plus longtemps, qui est mieux établi, mais qui aussi devient parfois polémique. Refusé par certaines populations. Qu'en est-il sur ce périmètre, justement, de ce territoire du PNR Corbière-Fenouillet ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'éolien encore ?
Il y a très peu de possibilités.
Très peu ?
Très peu de possibilités.
Ou il n'y en a plus ?
Pratiquement
ou il n'y en a
plus,
pas eu ?
Pratiquement plus. En dehors éventuellement du renouvellement des parcs existants.
Oui.
Voilà. Notamment celui du Montoche, qui fait l'objet d'une... d'une sollicitation en ce moment. Il n'y en a plus, tout simplement parce qu'on nous a demandé, lorsque nous avons créé ce parc, d'élaborer une carte de l'éolien. Et qu'en élaborant la carte de l'éolien, on s'est aperçu, à partir d'éléments objectifs, que les possibilités de créer de l'éolien sur le territoire étaient réduites à très peu d'espace, très très peu d'espace. Donc cette carte est établie, elle est validée par les services de l'État qui se sont engagés à ne pas accorder de permis de construire de grandes éoliennes, sur le territoire du parc, en dehors de deux zones, une petite zone dans l'Aude et une zone de même surface au sud du parc, c'est-à-dire dans les Pyrénées-Orientales.
Et alors, revenons donc au photovoltaïque, parce que ça, apparemment, il y a de l'espoir, il y a des possibilités de développement. Donc vous êtes parti vers, pour le moment, une utilisation des bâtiments publics. Envisagez-vous de demander au privé de suivre, en quelque sorte?
Ben, c'est effectivement un des objectifs que nous développons.
Vous voulez montrer l'exemple?
Vous voulez dire des propriétaires privés?
Oui.
Oui, bien sûr. On envisage que ce que l'on montre, ce que l'on porte là aujourd'hui en termes d'initiative, soit suivi par le secteur privé, par les citoyens sur leur propre demeure. On essaie d'évaluer les difficultés, mais également les espoirs que cela suscite. Difficultés quelquefois avec le service des bâtiments de France à cause d'un monument historique à proximité. C'est comment on peut résoudre cette question, comment on peut réorienter cette démarche-là. Mais il y a aussi de l'espoir sur le photovoltaïque au sol, notamment sur les parkings, notamment sur les anciennes carrières, pour parler de choses concrètes, c'est-à-dire d'endroits qui aujourd'hui sont compromis du point de vue soit de l'agriculture, parce que le photovoltaïque sur les sols, au sol, c'est en concurrence, quelquefois, pour ne pas dire souvent, avec le développement de l'agriculture. Et si c'est la raison pour laquelle on va sur d'anciennes carrières, d'anciennes décharges, en tout cas de terrains qui ont déjà servi et qui ne sont pas utilisables comme ça de même pour revenir sur des cultures.
Oui, alors ça c'est l'implantation du lieu pour une ferme photovoltaïque par exemple. Ensuite il y a, alors on produit de l'électricité, cette électricité on la vend, donc il faut une structure... Alors juridique ou économique pour la vendre, et il y a, alors ça peut être du privé, ça peut être enfin un certain nombre de formes différentes, mais il y a une structure qui semble poindre ou se développer, c'est une sorte de coopérative, une structure un peu coopérative. Par exemple, je crois qu'à la Luc-sur-Orbieux, il y a ce genre de projet qui est carrément coopératif. C'est-à-dire, c'est une coopérative qui gérerait et qui bénéficierait de la production, de la vente de la production électrique.
Oui, c'est ce qu'on appelle une démarche citoyenne. C'est-à-dire que l'investissement est réalisé par des fonds qui appartiennent à des citoyens, alors locaux ou pas, mais enfin essentiellement locaux. Et puis il y a aussi autre chose qui commence à fonctionner et que nous portons dans le projet dont je parlais tout à l'heure du soleil sur les toits, c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation locale. C'est-à-dire que nous portons dans les trois options que nous donnons dans le cadre du développement de l'éolien sur les toits, une option de boucle locale d'énergie, c'est-à-dire plusieurs toits qui se regroupent, de toits d'assez grandes dimensions, type cave coopérative, type caserne, etc., caserne de pompiers ou de gendarmerie, et qui vont permettre une production un peu plus importante avec une consommation directement dans une boucle locale d'énergie. C'est-à-dire que là, on est sur des tarifs qui sont des tarifs qui ne dépendent pas d'EDF.
Oui, c'est-à-dire on n'est plus raccordé au réseau.
Alors, on est raccordé, mais la priorité est accordée à la production locale de l'énergie.
Ah, selon un modus vivendi,
selon des règles un peu complexes.
J'imagine, à élucider, et à mettre sur pied de façon claire. Oui, mais c'est quand même, techniquement, Hervé Barrault, ça passe quand même par le réseau.
Alors, ça va directement chez l'utilisateur, mais l'utilisateur n'est pas déconnecté du réseau, parce que le principe du photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, sauf si on arrive à stocker l'énergie, ne produit que quand il fait jour, quand il y a du soleil ou quand, en tout cas, il y a suffisamment de clarté pour commencer à produire. Donc, effectivement, une partie de la production est fournie par autoconsommation, c'est-à-dire la consommation, la production locale, et puis le reste, c'est fourni par le réseau, de l'opérateur chez qui...
En tout cas, c'est une des grandes missions, si je comprends bien, du PNR actuel.
C'est une grande mission, à la fois produire, ou en tout cas porter, susciter de la production locale, et également...
Et en profiter.
Et en profiter directement, et puis également aussi faire en sorte que les citoyens... et des démarches de réduction de la consommation énergétique. Et donc, il y a aussi cet accompagnement que le parc apporte sur tout ce qui est réduction de consommation.
Voilà, le côté transition...
Le côté transition
énergétique. Énergétique. On marque, Hervé Barreau, une seconde pause.